Il est 7h16 minutes. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Louis.
Alors d'abord, amélioration du revenu disponible par habitant, les angles morts.
Oui, parce qu'on nous dit, selon l'Institut de la statistique du Québec, hey, ça va bien, là, on s'améliore au Québec, notre revenu disponible est meilleur. Bon, on est encore les cassés du Canada, faut se le dire. On a 4 550 $ de moins dans nos poches par année par habitant. Mais je vais t'apporter certains bémols. Donc c'est quoi le revenu disponible? C'est l'ensemble de nos revenus. Moins certaines prestations, ou pas prestations, mais retenues comme les taxes, les impôts, les charges sociales, certains frais de garde. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est...
C'est l'argent qui reste finalement quand
on a payé. C'est l'argent qui reste dans nos poches quand on a payé autre chose que notre consommation, disons.
Ouais.
Mais quand même, la logique derrière, c'est que quand on a plus de revenus du gouvernement, des allocations, ça vient augmenter notre revenu disponible. Donc, on s'améliore en partie à cause de ça. Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la cotisation au régime de retraite compte aussi. Donc, les Québécois qui disent « Ben, c'est ça, on paye plus d'impôts, attention. » Ton régime de retraite, ton régime des rentes du Québec, ça fait partie du revenu, du calcul du revenu disponible. Donc, c'est sûr que si tu cotises à ton régime de retraite, ben, veux pas, t'as moins de revenus disponibles, mais t'as épargné, tu sais, c'est une fausse donnée.
Mais est-ce qu'on tient compte des services qu'on reçoit pour...
Ben, c'est ça, non. Fait que dans le fond, au Québec, on décide de se payer des CPE, un RQAP, donc ça diminue notre revenu disponible, mais ça fait des ressources collectives mieux distribuées. Tu sais, tu vas à Toronto, par exemple, tu leur parles d'une garderie au centre-ville, là, les gens se regardent pis ils disent, ah, ici, là, les garderies, c'est l'enfer. Donc, nous, ça permet à des gens de travailler, tu sais, de façon plus facile, plus efficace. Et l'autre affaire qu'on met jamais en perspective dans le revenu disponible, c'est la fraude fiscale. Évidemment, la fraude fiscale de la construction, de la restauration, de la coiffure, de tout ce qui est service aux particuliers n'est évidemment pas dans le calcul. Et au Québec, on a beaucoup de PME. Qui dit PME dit facilité de fraude quand tu fais affaire avec des particuliers et non pas des entreprises. Donc, il y a ça aussi qu'il faut mettre dans le calcul, mais qu'on peut pas quantifier vraiment. Mm-hmm. Je te donne un exemple. Hier, il y a quelqu'un qui m'a donné l'exemple de son courtier immobilier qui a demandé un paiement en cash. Ton courtier immobilier, il en fait pas assez. Un petit 3-4 000 cash, là, va t'arranger ça.
Ouais, c'est ça, exactement. L'autre, ni vu ni connu.
C'est ça. L'autre point, c'est qu'évidemment, tu sais, c'est le vieillissement de la population fait en sorte que ceux qui reçoivent des prestations, ça compte, mais qui ne sont plus actifs. Donc, si on a une population vieillissante, bien évidemment, ça génère moins de revenus par habitant.
Ouais.
Il y a des raisons logiques, comme on a baissé la taxe santé au Québec, donc ça améliore notre portrait. On a une inflation moins élevée. On a aussi un coût de la vie beaucoup inférieur au Québec, donc on améliore notre revenu disponible. Mais en même temps, si on se compare aux autres provinces, on survit parce que notre coût de la vie est inférieur, donc on réussit à s'en sortir. Et on doit remercier les générations antérieures d'avoir investi dans Hydro-Québec. Et tout ça fait en sorte que, comparer les provinces canadiennes, c'est extrêmement difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que le Québec reçoit de la péréquation, le Québec ne génère pas autant de revenus qu'ailleurs au niveau des particuliers, et que, oui, on redistribue beaucoup parce qu'on a fait des choix de société, entre guillemets. Quand on dit choix de société, c'est des choix gouvernementaux. Mais soyons conscients qu'effectivement, moins on va générer de richesse, plus cet écart-là va rester.
Et tu veux me parler des frais bancaires, les frais qui sont liés souvent à des cartes de crédit ou encore des cartes de débit, j'imagine?
Oui, parce que j'ai reçu hier un courriel de mon institution financière qui me dit « Hey, voici les nouvelles modalités de ta carte de crédit. » Et je voulais en parler ce matin parce que c'est très intéressant de mettre ça en perspective. Regarde bien ça. Au début, on t'annonce les cadeaux. Donc, on commence par...
Les bonnes nouvelles.
À partir du 1er août, tu payes plus de frais sur une copie de facture. Tu payes plus de frais sur l'émission de chèque pour un seul créditeur. Tu n'as plus de frais pour compte refusé sur la carte. Bon, plein d'affaires, tu sais. Il n'y a plus de frais pour l'utilisation d'un chèque Mastercard. Même les avances de fonds, je t'enlève les frais dans certains services. Là, tu te dis, attends une minute, là.
Ils doivent s'en prendre quelque part.
Et voilà. Puis là, vient la claque d'en face. C'est qu'on augmente le taux d'intérêt de base. Tu sais, une carte de crédit, c'est pas compliqué, hein.
Ouais.
C'est un modèle d'affaires. Tu cherches une clientèle. Et là, on a décidé d'éliminer certains frais. D'un autre côté, on passe le taux minimum de 19,99 à 20,99. OK, il n'y a pas une logique de coût des fonds d'une banque qui justifie présentement que les taux des cartes de crédit augmentent, sauf si tu changes ta stratégie.
Ouais.
Et là, je dis, mais où ça peut venir? Ben là, tu vas voir plus loin dans le détail et tu te rends compte que le diable est là.
Mm-hmm.
C'est qu'à partir du 1er août, on commence à augmenter le paiement minimum. Comme on va être obligé d'augmenter le paiement minimum des gens, ben on va faire moins d'argent d'intérêt. faut se reprendre quelque part. Donc, ce qu'on perd en paiement minimum...
Parce on que va le récupérer en intérêt.
On va le récupérer en intérêt. Ouais. Puis là, les gens vont s'offusquer. C'était donc épouvantable encore les moins nantis qui vont payer. Effectivement, une carte de crédit, c'est un mode de paiement. Et on a appelé ça carte de crédit. Mais le mot crédit est comme une claque d'en face de l'hypocrisie bancaire. On te fait pas crédit. On te fait crédit 21 jours et plus si t'es un bon payeur. Mais dès que t'es un mauvais payeur, on te pénalise pour ne pas avoir payé ton crédit. Et ce qui est fou, c'est que le montant minimum va augmenter. Là, on est à 2,5% en 2020. Pour ceux qui ont déjà un compte, ça va monter jusqu'à 5% en 2024. Donc, c'est pas énorme, mais on va éliminer l'espèce de règle minimale du 2,5% pour monter jusqu'à 5% pour que les gens commencent par obligation à payer le solde minimal. Et qui va continuer à financer ceux qui utilisent bien leur carte de crédit?
Ceux qui l'utilisent mal.
Exact. Donc, non, mais si on avait cette espèce de... C'est, dans le fond, là, tout ce qu'on fait dans la société, c'est qu'on décale le crédit. Dans le fond, si on donne un outil supplémentaire, les gens finissent par l'utiliser parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Ouais. Et là, dans le fond, on crée une consommation totale plus élevée pour tout le monde. Et c'est ceux qui sont les moins nantis qui finissent par payer la note. Et les banques...
Ça.
Ça frotte les mains.
Lisez les petits caractères. Merci, Pierre-Yves. Salut. Salut.